Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, il y a des francs-maçons qui ont fait des procès à Faye, qui était le directeur des documents maçonniques, parce qu'il avait publié leur nom, et les tribunaux de Vichy ont donné raison aux francs-maçons qui portaient plainte parce que leur nom avait été dévoilé dans la presse. Ça, c'est tout à fait extraordinaire quand même. En disant que, étant donné que l'appartenance maçonnique était actuellement considérée comme quelque chose de grave et de pécadineux, le fait de révéler l'appartenance maçonnique d'un individu lui portait un tort et par conséquent il fallait condamner ça. Alors quand on vous parle de Vichy comme une espèce de bloc monolithique, c'est pas vrai du tout. Là, la franc-maçonnerie sous Vichy a continué à fonctionner exactement comme par devant, avec des magistrats francs-maçons, des policiers francs-maçons, des officiers francs-maçons qui continuent à faire leur boulot. On leur demandait de faire une déclaration sur l'honneur, soit qu'ils n'avaient jamais été, soit qu'ils n'étaient plus francs-maçons. Ils faisaient la déclaration sur l'honneur et ils continuaient exactement comme par devant à participer aux tenues. Et quand ils étaient pris en flagrant délit, ils avaient des sanctions qui étaient dérisoires. Il y a quelques fonctionnaires qui ont été radiés de la fonction publique, mais très très peu par rapport au nombre énorme de fonctionnaires qui ont continué à rester francs-maçons à l'époque de Vichy. Et ça, c'est une chose que personne ne dit aujourd'hui.
Une question, je connais une personne qui est professeur d'université, qui officiellement avait comme titre maçonnologue. Et il a fait un certain nombre de documents. Est-ce qu'il ne faut pas être maçon d'un certain grade pour écrire sur la maçonnerie officiellement à l'université?
Moi, ça me paraît évident, parce que de toute façon, s'il n'a pas, pas d'appartenance, il ne peut pas avoir d'information. Et s'il n'a pas d'information, il peut rien faire. Donc un maçonnologue, bon, ça fait partie des trucs comiques de l'université, mais en réalité c'est quelqu'un qui est autorisé à dire les choses qu'il a le droit de dire. Donc, voilà,
c'est comme ça. Serge, on a parlé récemment en Angleterre que le gouvernement a
demandé. Oui,
c'est bon. Ça, c'est anglaise de l'obligation pour les policiers et les magistrats de rendre officielle leur appartenance à la maçonnerie, c'est une plaisanterie. Le gouvernement, pas non seulement le gouvernement, le pouvoir britannique est maçon jusqu'aux oreilles. Le prince de Galles, le patron officiel, enfin pas le prince de Galles d'ailleurs, c'est Philippe d'Edimbourg.
C'est pas le duc de Kent? C'est pas le duc de Kent?
Oui, oui. Philippe d'Edimbourg et le duc de Kent sont les patrons de la franc-maçonnerie, de même qu'en France, c'était le comte de Clermont et puis ensuite le duc d'Orléans. Donc,
Philippe,
je ne vois pas comment on peut demander à des gens de dévoiler une appartenance. Ça n'a aucun sens, parce que cette appartenance n'a absolument pas le caractère encore un peu sulfureux que ça peut avoir en France. Moi, j'avais été invité à Londres à faire une tenue, enfin une planche devant la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et c'était un dîner où il y avait 400 personnes. C'était dans le grand restaurant du Hilton, enfin la grande salle à manger du Hilton de Londres. Et tout le monde était en smoking, tout le monde avec un Suisse à l'entrée en grand uniforme, en tricorne, qui annonçait les gens solennellement et tout ça. Il y avait des journalistes, c'était absolument à ciel ouvert. Et d'ailleurs, les loges maçonniques défilent lors des fêtes en Angleterre. Tous les membres de la maçonnerie défilent avec leur décor, avec leur certificat. Donc de dire à ces gens-là, il faut vous révéler, c'est une tiradistouille, c'est une balinière, ça n'a aucun sens.
C'est comment aux États-Unis, hein?
Oui, aux États-Unis, j'ai le souvenir d'un ami qui avait raconté qu'il était allé visiter le Cap Canaveral. À l'époque, je ne l'appelais pas Cap Kennedy, ça fait Cap Canaveral. Et il était, alors, à l'époque, il était ingénieur, dans un truc de recherche spatiale, pas spatiale, de l'aviation en France. Et il était allé avec tous les ingénieurs, il a fait un voyage d'études à Cap Canaveral. Et quand ils sont arrivés devant la barrière qui donnait accès au site, il y a un officier qui est rentré, qui a vérifié, enfin l'officier, qui est venu vérifier les papiers, puis quand les papiers ont été vérifiés, il y a un franc-maçon, revêtu de tous ses décors, qui est monté, qui s'est planté au bout de l'autocar, qui s'est mis à l'ordre et qui a dit « Je demande aux frères maçons de bien vouloir se faire connaître. » Alors tous les mecs étaient le nez dans leur chaussure, regardant s'il y avait un de leurs voisins qui allait se faire connaître. Et naturellement, il n'y en a pas un seul qui s'est fait connaître, mais ça montre bien la différence de culture entre les États-Unis ou la France, et la France, où en France, de dévoiler les maçons dans la fonction de la haute fonction publique, la police et la magistrature anglaise, ça me paraît Moi, j'ai pas lu dans la presse anglaise, j'ai lu dans la presse française. J'en suis à me demander si c'est vrai. Je crois que c'est une pure et simple avancée. Je crois que ça ressemble absolument à rien. Pourquoi les travaillistes? Parce que ce sont les travaillistes. Pourquoi les travaillistes sont plus particulièrement déchaînés? Je crois que c'est pas vrai, tout simplement. Je crois que c'est un truc qui est complètement bidon, qui a été monté par des journalistes. En épingle, mais je crois que ça correspond à aucune réalité. Vous avez vu, vous, les papiers dans la presse anglaise? Est-ce que quelqu'un a vu des papiers dans la presse anglaise sur l'obligation pour les francs-maçons policiers ou magistrats de se révéler? Moi, je n'ai vu ça que dans la presse française. Oui,
alors, il y a quand même beaucoup de chances qu'on peut faire complètement faux. Hein.
Est-ce que le Rotary Club et le
Lions Club,
ce sont des...
Alors, ça c'est intéressant parce qu'à l'origine, le Lions Club, c'est une organisation maçonnique, strictement maçonnique, qui a été créée pour... c'est assez simple. La maçonnerie, la capitation en gros, est de... Enfin, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est maintenant, mais à l'époque où j'étais, c'était quelque chose comme 1500 francs par an. Et tandis qu'à l'époque, le Lyon, c'était 4000 francs par an. Donc ça faisait une sélection, ça écrémait en quelque sorte les loges maçonniques, et ça prenait les gens qui ont les moyens, autrement dit les gens qui sont dans les affaires, chefs d'entreprise, des patrons de laboratoire. Dans la maçonnerie, vous avez des pharmaciens, au Lyon, vous avez des patrons de laboratoire, dans la franc-maçonnerie, vous avez des médecins, au Lyon, vous avez des professeurs, et des chefs de clinique, en gros, c'est ça. Et donc parce qu'il faut avoir plus d'argent, et puis le Lyon se réunit uniquement pour, censé se réunir uniquement pour des œuvres de bienfaisance. En réalité, il faut bien comprendre que le Lyon, c'est un truc extraordinairement malin, parce que c'est par là que se passent les premiers contacts des réseaux. C'est-à-dire que c'est des chefs d'entreprise qui se rencontrent entre eux, ou des ingénieurs de haut niveau, etc. Et ce sont des gens qui appartiennent aux sphères dirigeantes de la société. Donc ils se rencontrent et ils préparent les opérations qui vont être menées ensuite. Quand des gens qui n'étaient pas maçons se sont aperçus de ce système, ils ont décidé de créer une organisation rivale, concurrente, qui s'appelle le Rotary. Ils ont appelé le Rotary. Et une fois que le Rotary a été créé, qu'ils ont commencé à bien marcher et à faire une concurrence sérieuse aux Lions, alors on ne pouvait pas rentrer au Rotary si on était maçon. C'était extrêmement difficile pour un Rotarien, enfin pour un maçon de devenir Rotarien. Et ils y sont quand même arrivés, ils ont fini par infiltrer le Rotary, et le Rotary est devenu une organisation maçonnique. Alors il y a une nouvelle organisation qui a été créée, qui s'appelle, je crois, les Kiwadi ou un nom comme ça, dans ce genre-là, ils sont en train de suivre exactement le même chemin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se créent ce genre d'organisation, les formats qui arrivent, ils l'infiltrent et ils transforment en organisation paramassive.
Et les Rose-Croix?
Ça, c'est encore tout à fait autre chose. Les Rose-Croix, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça existe? La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Alors, si ça existe, c'est probablement un ramassis de pied qui joue avec des choses extraordinairement dangereuses. C'est des enfants de 3 ans qui jouent avec une grenade dégoupillée. Et un jour, de temps en temps, ça leur fait étonner, alors ils sont tous étonnés, parce qu'ils jouent avec des forces qui les dépassent complètement. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire des refroids. Mais la plupart du temps, c'est surtout d'aimables cinglés qui font des guignols, qui jouent à se faire peur. Et de temps en temps, ils tombent sur quelque chose, ça fait mal.
Mitterrand était...
Non, Mitterrand, il n'a jamais rien été.
Non, je suis là.
Non,
je sais pas si les 33 degrés ou les 30.
Il y a quand même quasiment, ils se vantaient d'être froid. En réalité, les gens qui disent que je suis refroid, ils se vantent d'être refroid parce que personne ne sait ce que c'est les personne ne sait ce que c'est. Et au fond, il suffit de décider d'être refroid pour le devenir. À partir de là, on a construit une formidable mythologie où on a dit par exemple que Jean 23 était rose croix. Il y a un bouquin qui est paru qui est Jean 23, grand maître rose croix, je crois. En réalité, en dehors de la mort que l'ordre rendu chrétien
c'est une très très belle opération pour pomper du fric et des crétins. Je connais absolument aucune organisation au sens propre. Alors il y a des trucs, la théosophie, Davoski, des machins comme ça. Mais c'est...
Et après, le Bretonnier, il a un restaurant, on s'appelle Végétarien, et en dessous, ils font des conférences comme ça.
Oui, mais ça, il y a des gens qui s'amusent à faire. En réalité, il n'y a aucun rôle. Moi, je suis absolument certain qu'il n'y a pas d'organisation Rose Croix qui joue un rôle réel dans la politique française. Il y a un grand maçonnique qui s'appelle Chevalier Rose
Croix. Écoute-moi, je n'avais pas fini. Non, c'était pour te dire qu'il s'est vanté, mais non, qu'il me disait qu'il est, je crois qu'il y a 30, comme tu as dit, il y a 33 degrés à la maçonnerie, non oui. Je crois que les 30, c'était France Rose Croix.
Oui, c'est ça, voilà. Enfin, ça, c'est du folklore. Il y a France du Royal Secret, il y a Chevalier de Bourgeois, enfin, c'est des appellations, c'est bon pour... Pour les livres
pour
les enfants. J'aurais dû évoquer cette question.
À tous les problèmes liés à l'homosexualité, la libéralisation de la drogue, l'euthanasie, les cultes.
Mais
la formation des personnes de
16 ans
sur l'influence considérable
plus grande
sur la formation des enfants.
Ah oui,
c'est oui. Ça commence à l'école primaire, ça dans les collèges, dans les lycées, dans les grandes écoles.
Ils sont,
je
peux
dire que le recrutement
se fait
des gens
à ce niveau-là. Tout à fait.
Vous avez raison d'attirer l'attention sur cette question.
C'est vrai que c'est une dimension très importante que...
Madame, mais comme les professeurs sont généralement gauchistes et n'ont pas de culture chrétienne, donc ils n'enseignent pas ces auteurs-là.
Il y a un exemple, enfin un cas absolument qui est presque caricatural de la puissance maçonnique dans l'enseignement public, c'est le cas des affaires de pédophilie. Tous les scandales phénomènes qui ont éclaté depuis quelques années ont été étouffés, et à chaque fois que vous avez vu une chose, c'est très frappant, on découvre que ce sont des instituteurs ou des enseignants qui, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans qu'ils ont été inquiétés déjà pour des affaires, et on les a déplacés, on les a changés dans cet établissement, etc., on ne les a jamais chassés. Tous ces gens-là sont francs-maçons, ils sont couverts par la franc-maçon. Ça, c'est la solidarité maçonnique qui joue à fond. Alors, c'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la franc-maçonnerie exerce un contrôle à peu près total sur l'enseignement public en France, aussi bien sur l'enseignement public dans les hiérarchies, c'est-à-dire les désignations et la gestion des rectorats, mais aussi dans la fabrication des programmes, ça c'est tout à fait évident. Alors en ce qui concerne l'infestation des idées, j'ai cru longtemps que les idées naissaient dans les loges, et puis je me suis aperçu qu'en réalité c'est pas tellement ça, c'est plutôt des phénomènes de concaténation, si j'ose dire, c'est-à-dire que ça fait une idée qui est dans l'air, les loges commencent à en parler, et elles la concrétisent, et quand j'étais là-bas, c'est le moment où... on a commencé à beaucoup parler de deux choses qui étaient premièrement le terrorisme et deuxièmement l'avortement. Et les questions à l'étude des loges, alors voilà comment ça se passe. Au début de l'année, on soumet les questions à l'étude des loges, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui imagine de proposer à la réflexion des maçons un sujet.
Et là, on a exactement l'application, et c'est tout à fait intéressant, du fonctionnement du système communiste. C'est-à-dire que on réunit dans l'atelier, on constitue dans chaque atelier des commissions qui vont étudier les questions à l'étude des hommes. À la tête de chaque commission, on désigne un rapporteur. Chaque membre de la commission remet un rapport personnel sur la question à l'étude des hommes. Par exemple, à l'époque où j'étais, c'était « faut-il appliquer la peine de mort aux actes de terrorisme ?» Alors chacun réfléchissait là-dessus. Ensuite, le rapporteur réunissait les rapports des 5 ou 6 membres de la commission et en faisait un résumé. Ensuite, il y avait un rapporteur par atelier qui rassemblait les rapports des 3 ou 4 rapporteurs, les résumés des 3 ou 4 rapporteurs, et qui en faisait un résumé. Ensuite, c'était transmis à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au convent, et là, on procédait à une analyse des résumés de rapports, et on en faisait un résumé. Autrement dit, à chaque fois, vous pouvez intervenir comme vous voulez, parce que quand vous avez 5 personnes qui ont des avis différents, quand vous faites un résumé, c'est votre avis que vous donnez. Et ensuite, quand vous avez 5 avis différents, quand la personne qui résume les 5 avis différents, c'est encore son idée. Donc il suffit de nommer des rapporteurs au bon endroit pour être sûr d'arriver à la solution qu'on cherche depuis le début. Et j'ai vu ça quand j'étais arrivé en Lodge, quand la question à l'étude d'élève soumise a été faut-il appliquer la peine de mort aux terroristes, je peux dire que dans mon atelier, pratiquement tous les membres de l'atelier étaient partisans de l'application de la peine de mort aux terroristes. Et quand le rapport final a été remis, il était partisan, il était opposé à l'application de la peine de mort. Autrement dit, on était dans une situation où le reflet de l'opinion générale était le contraire de l'opinion générale. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, à partir de là, on voit très bien comment c'est manipulé, parce que ça consiste à dire, mais écoutez, c'est l'opinion quand même de la société française, parce que ces gens-là, qui sont des agents décisionnaires ou des puissances productives dans la société française, qui sont des commerçants, qui sont des intellectuels, des professeurs, des médecins, des avocats, etc. C'est des gens qui réfléchissent, ils ont fait une réflexion commune, une réflexion collective, et de cette réflexion collective, il sort quelque chose. Il faut en tenir compte. Et c'est comme ça que l'avortement a été voté, c'est comme ça que la pilule a été... Je disais tout à l'heure l'avortement, non, c'est pas l'avortement, c'était au moment de la pilule, puisque c'était le docteur Simon qui était devenu à cette époque-là le grand maître de la Grande Loge de France, et Simon a organisé toute l'exposition de l'étude des loges sur la contraception, et c'est sous l'égide de Simon que ses travaux ayant été préparés, la pilule a été libéralisée, a été autorisée en France. Donc c'est un travail de manipulation, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut remonter à la source, mais pas à la source, on peut remonter au moment où il y a déjà un marais, quoi, où le marais est plein d'eau, mais on ne sait pas d'où vient l'eau qui alimente le marais. Et c'est comme ça qu'on arrive à manipuler les médias, parce que alors les médias donnent un retentissement à ça par les réseaux maçonniques, bien sûr, en disant, voilà, par exemple, les loges ont réfléchi à la question de l'étude des loges, l'essentiel, la crème de l'élite de la société française pense que véritablement maintenant, il faut, au nom de la dignité de la femme, autoriser la contraception en France. Alors tout le monde dit, ah bah oui, si c'est la crème de l'élite qui dit ça, si c'est au nom de la dignité, en plus un petit coup de liberté, d'égalité, de fraternité, roule les jeunesse, on autorise la pilule, et voilà comment ça marche. Donc ça joue tout le temps comme ça.
Au Sénat, il y a des groupes qui font des études sur des sujets, le Sénat se veut une force de proposition, mais il y a des groupes qui font des études sur des sujets bien définis, on met à l'étude un certain nombre de sujets.
C'est exactement le fonctionnement.
Ça serait intéressant de savoir s'il y a un lien entre donc, les groupes d'études de la franc-maçonnerie et les groupes d'études du Sénat.
Ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas, parce que je crois qu'au Sénat, on aurait cherché longtemps pour trouver un sénateur qui ne soit pas franc-maçon. Hein. Oui. À mon avis, c'est un gros travail d'investigation.
Je voulais savoir, j'en reviens toujours à la personne dont vous parlez tout à l'heure, qui était au PS, et qui m'avait dit par contre en 77, alors est-ce qu'il y a eu une évolution dans la franc-maçonnerie, ou alors il m'a fait un super mensonge, il m'a dit qu'il n'y avait que des gens de gauche à la franc-maçonnerie.
Non. Je voulais dire que Longuet, je n'ai pas de formation, que
Gérard veut dire à cette époque-là, c'était pareil, c'est un mensonge.
Oui, pour moi, c'est pas du tout. Giscard, à l'époque où il n'était pas de gauche, il avait bien de franc-maçon. Si Giscard n'est pas devenu franc-maçon, c'est parce qu'il voulait qu'on l'investisse, on l'initie à l'Élysée. Il ne voulait pas aller passer sous le bandeau à la Grande Loge. Et les francs-maçons sont unis en disant on va essayer et tout, mais ça n'a pas marché. Mitterrand, lui, s'était présenté pour rentrer à l'atelier qui s'appelle la loge de l'abbé Grégoire, et il est passé sous le bandeau, il a été reçu sous le bandeau, et le jour où il devait être initié, l'un des officiers de la loge de l'abbé Grégoire, qui était Jean-Pierre Bloch, est arrivé à l'atelier en brandissant l'annuaire de la franchise, qui est en disant, c'est pas question de recevoir le franciscain Mitterrand dans notre atelier. Donc on a annulé le projet d'initiation de Mitterrand, et Mitterrand leur a jamais pardonné ça, et il les appelait les frères la gratouille, avec une exécration absolue, un mépris de fer pour les francs-maçons.
Ah bon, pourtant, au fond, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a
une erreur. Ouais.
D'où provient, concernant la franc-maçonnerie, le rattachement quasi mythique ou systématique à la République, c'est-à-dire au système de gouvernement pourri qu'on voit actuellement. Alors que, il me semble-t-il, d'après ce que vous indiquez, ils étaient quand même monarchiques, puisque les maçons étaient de la famille royale, et voilà maintenant, nous rabâchons sans arrêt laïcité, liberté, égalité et fraternité, la République est en danger.
Non, alors, c'est une erreur de croire qu'ils n'étaient pas du tout monarchistes en réalité. Ils ont toujours été sautés par les branches cadettes. Par exemple, en France, c'était Orléans qui était maçon. Et Orléans, il a tenté d'utiliser la maçonnerie pour essayer de discuter et de réduire le pouvoir de la monarchie. En fait, la maçonnerie, ça a toujours. La maçonnerie, je pense qu'une des origines de la maçonnerie dans sa volonté de puissance, il faut la chercher dans ce qui s'est passé. Au début du règne de Louis XIV, à la fin du règne de Louis XIII, quand ces féodaux, quand l'aristocratie a perdu une partie de ses pouvoirs, quand l'aristocratie a été obligée par Louis XIV d'abandonner ses pouvoirs locaux pour venir faire la danse du vent à Versailles. Louis XIV avait fait ça pour en quelque sorte les avoir sous la patte. Alors ça a eu un effet positif, c'est-à-dire qu'il a régné véritablement sur le pays et il n'y avait plus la concurrence des féodaux. C'est rapide ce que je dis. Mais en même temps, comme il a réuni ces gens-là se sont retrouvés ensemble et ont remplacé le pouvoir qu'ils avaient sur l'argent dans leurs terres par des pouvoirs qu'ils avaient sur les affaires à Versailles et au plus haut niveau de l'État. Et donc, c'est là que se sont véritablement constituées des loges, elles ont été constituées contre le pouvoir absolu. Et d'ailleurs, les premiers serments des loges maçonniques, c'est toujours des serments qui sont prêtés contre le monarque et le pouvoir absolu. Et comme tout bon catholique, je pensais que c'était des gens dont on disait trop de mal pour qu'ils soient vraiment méchants. Donc j'étais attiré par eux parce que je vivais dans un milieu qui était fanatiquement anti-maçon, et je me disais, c'est pas possible, on peut pas avoir autant de tard, donc ça doit être des gens qu'on calomnie. Donc je vais aller près d'eux pour leur manifester que, au fond, même un catholique peut les aimer, etc. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je m'ennuyais prodigieusement à l'église. Parce que l'église conciliaire me pompait l'air à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et je me disais, mais on a. La foi catholique est une chose immense, merveilleuse, éblouissante, d'une richesse folle. Et c'est pas possible qu'on s'enquiquine comme ça. Toute cette symbolique doit avoir un sens. Je passais mon temps à m'intéresser à la symbolique religieuse, etc. Et j'en parlais à des curés, et personne n'était capable de me donner la moindre lumière là-dessus. Tous les bouquins que je trouvais sur ces questions sur les questions de la symbolique, sur les questions de la géographie sacrée, sur la question de la construction des cathédrales, enfin tout ça. Tout ça était des bouquins qui étaient écrits par des gens qui parlaient à un moment ou à un autre de la maçonnerie. J'étais mal orienté, d'ailleurs après j'ai découvert des vrais auteurs. Bon, ça c'est la deuxième chose. Donc j'avais une curiosité, j'avais envie d'être initié, j'avais une tendresse pour ces gens-là parce qu'ils me paraissaient victimes de persécutions insupportables, et donc j'y suis allé. Et puis au début, j'ai été un maçon bien simple, j'ai fait comme tout le monde, je me suis tué, j'ai écouté, et puis de plus en plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'imbéciles? Et puis au bout d'un moment, j'ai découvert que l'initiation n'existait pas, et puis j'ai découvert que c'était une boutique où j'étais pas souvent à la rue Marche, pas très gêné, et puis un beau jour, j'ai découvert ce que je vous disais pour commencer, c'est que je répète, parce que c'est vrai, c'est le fond du problème, la maçonnerie est une fabrique de juifs synthétiques, et moi j'ai pas envie de devenir un juif synthétique. Donc je suis parti. Voilà la raison pour laquelle j'ai quitté la maçonnerie, parce que c'était pas du tout ce que je croyais.
Vous avez des contacts à faire?
Oui, il y a beaucoup de gens que j'ai connus quand ils étaient maçons, enfin beaucoup, quelques amis que j'ai gardés, parce que c'est des braves gens. Je vous répète qu'à la base, la plupart sont des braves types qui aiment bien se réunir une fois par mois. Si on était en Angleterre, ils iraient au club. Ils aiment bien se réunir une fois par mois pour parler de choses et d'autres. Alors on expédie les travaux de la loge, et puis après on va dîner au club écossais, et on boit un bon coup, on bavarde, c'est sympa, c'est amical, et puis encore une fois, on dit au gars, tiens disons, j'ai besoin d'une voiture pour mon fils, t'as pas un copain garagiste, quoi, ouais, c'est tout.
Mais il
parle des triangles. Les triangles, le triangle, c'est le prix d'un repas, hein, en langue maçonnique.
Par contre, maintenant, évidemment, sur le plan présent, parce que c'est ce qui importe le présent pour toute l'humanité qui est actuellement ici, hein. Donc, comme c'est un niveau qui va quand même s'ouvrir aujourd'hui avec les moyens que l'on connaît actuellement et qui vont évoluer, peut-être en mal, parce qu'il y a les effets pervers de l'évolution. Je veux dire en cela qu'il y a un grand problème qui est le clonage. Et deuxièmement, il y a Internet, qui veut dire que les gens maintenant vont pouvoir communiquer très rapidement. Ça allait être aussi présagé qu'il va y avoir, donc les effets pervers, c'est qu'il y aura sans doute des gens qui en useront d'une manière diabolique.
Oui, alors je veux dire, en ce qui concerne le clonage, on n'y est pas encore. Très franchement, on n'y est pas encore. Quand on voit les efforts qu'il a fallu déployer pour avoir une brebis clonée, d'ici qu'on ait un clonage de Chirac, on peut... Je crois qu'il y a un moment où l'homme, il va se prendre un aléatoire, il va laisser sonner pour quelques années. Donc ça, je ne suis pas inquiet. Quant à l'Internet, alors, Internet, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et il faudrait quand même arrêter de fantasmer. Qu'est-ce que c'est que l'Internet? Internet, c'est une espèce de téléphone universel pas cher qui fonctionne branché sur un écran d'ordinateur, qui vous permet d'accéder à des sources d'informations, qui peut faire de mal à personne. Alors on nous dit, oui, mais l'Internet c'est très dangereux, parce que vous comprenez, sur l'Internet par exemple, il peut y avoir des réseaux de phénomènes. Je suis désolé, les phénomènes n'ont pas attendu l'Internet. Il y a un truc qui s'appelle le papier, qui est beaucoup plus dangereux que l'Internet, ça circule autant, on peut écrire autant de cochonneries sur le papier, beaucoup plus de cochonneries sur le papier qu'on peut en écrire sur l'écran d'Internet, et jamais personne n'a proposé de supprimer le papier. Donc voilà, ouais, l'Internet, bah, c'est ce que je dis, c'est une espèce de téléphone branché sur un ordinateur. Donc, c'est très utile. Moi, je m'en sers tout le temps, parce que ça permet d'accéder à des sources d'informations exceptionnelles, rares. Je cherchais, par exemple, certaines dépêches qu'on ne trouve pas en France, certains réseaux d'informations qui ne sont pas accessibles normalement en France. Vous pouvez avoir accès à des bibliothèques, ou là, bon. Mais cela dit, c'est extrêmement cher à l'achat, c'est un maniement assez compliqué, donc ça ne concerne pas l'immense majorité de la population, et à mon avis, c'est comme tout, quoi. Je vais dire un truc énorme, enfin, c'est comme une baïonnette, vous pouvez faire beaucoup de choses avec une baïonnette, si vous essayez dessus, vous avez des problèmes. Oui, bien sûr, ben oui, là, c'est clair. C'est clair que les sondages d'opinion sont faits par des instituts de sondage, et quels instituts de sondage sont pour la plupart dirigés par des gens qui appartiennent à la maçonnerie. Alors, ça ne veut pas dire que tous les sondages sont truqués par les...